Bonjour à tous, je vous invite à poursuivre ce matin notre pérégrination avec David et donc à ouvrir vos Bibles au deuxième livre de Samuel, au chapitre 6. Je lis dans la version du Summer, 2 Samuel, chapitre 6. David rassembla les 30 000 meilleurs guerriers d'Israël. Puis il se mit en route avec toute cette armée et partit de Baal-Juda pour ramener le coffre de Dieu, sur lequel a été invoqué l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, qui siège entre les chérubins. On chargea le coffre de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Abinadab située sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. On fit partir le chariot sur lequel on avait posé le coffre de la maison d'Abinadab située sur la colline. Ahio marchait devant le coffre. David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel en jouant sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des lyres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés près de l'aire de Nakhon, les bœufs firent un écart et Uzza tendit la main, saisit le coffre de Dieu. Et alors, l'Éternel se mit en colère contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, à côté du coffre de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uzza. Et il appela ce lieu Peretz Uzza, ce qui veut dire brèche d'Uzza, et nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel. Et il se demanda « Comment oserais-je faire venir le coffre de l'Éternel chez moi ?» Il renonça donc à transporter le coffre de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il le fit déposer dans la maison d'Obed-Edom, un homme originaire de Gath. Le coffre y resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa famille. Alors on fit savoir au roi David que l'Éternel avait béni la famille d'Obed-Edom et qu'il avait fait prospérer tous ses biens à cause du coffre de Dieu. Alors David fit transporter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. Et quand ceux qui portaient le coffre de l'Éternel eurent avancé de 6 pas, ils s'arrêtèrent. Il en offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. Et David dansait, il dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi, David et tout le peuple d'Israël transportèrent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les cors. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, la fille du roi Saül, et je rajoute l'épouse de David, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Alors, elle conçut du mépris pour lui dans son cœur. On amena le coffre de l'Éternel et on le déposa au milieu de la tente que David avait fait dresser pour lui. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Et quand David eut achevé d'offrir ses sacrifices, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Puis il fit distribuer des vivres à tout le peuple, c'est-à-dire à toute la foule des Israélites, hommes et femmes. Chacun reçut une miche une miche de pain, une portion de viande rôtie et une masse de raisins secs. Après cela, chacun retourna chez soi. David rentra chez lui pour bénir sa maisonnée. Alors Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama « Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. » Et David répondit à Michal « C'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute ta famille pour m'établir comme chef d'Israël, son peuple. Et je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Néanmoins, je serai honoré par les servantes dont tu as parlé. » À la suite de cela, Michal n'eut jamais d'enfant jusqu'à sa mort. Que la parole de Dieu soit vivante au milieu de nous ce matin. Et comme nous avons eu une longue lecture, je vous invite à chanter un chant avant de poursuivre la prédication. Et je vous invite à chanter « Nous adorons Adonai ». Nous voulons célébrer le roi des rois. Levons-nous pour ce chant. Certaines personnes sont très religieuses. Elles connaissent le Seigneur depuis longtemps et elles ont pris certaines habitudes avec le temps. Elles servent le Seigneur, sont souvent bien engagées. Elles aiment montrer leur piété. Elles aiment faire entendre de belles prières lors des cultes. Mais elles n'aiment pas forcément les imprévus, ni ce qui vient déranger l'ordre habituel des choses. L'ordre est plus important que la vie. Et il existait déjà de telles personnes du temps du roi David. Il en existait aussi du temps de Jésus. Et Jésus d'ailleurs dérangeait fortement ces gens-là, parce qu'il bousculait leurs habitudes. Il remettait en question ce qui était pris pour un acquis. Il venait discuter du bien fondé de telle bonne œuvre, parce qu'il jugeait la motivation de l'œuvre hypocrite. Jésus a toujours cherché à aller au-delà des apparences. Il voulait voir ce qu'il y avait au fond du cœur. Mais les gens religieux de son époque n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé qu'ils viennent s'occuper de ce qui ne le regardait pas. Alors ils l'ont tout simplement écarté de leur route et ils l'ont crucifié sur une croix. Aujourd'hui, j'aimerais demander, avec le texte que nous allons méditer, quel genre de chrétien sommes-nous? Qui est le Dieu que nous adorons? Comment pouvons-nous entrer dans sa présence? Le récit d'aujourd'hui nous laisse un goût inconfortable. On ne comprend pas bien pourquoi Dieu foudroie-t-il un homme qui cherche à faire attention à ce que le coffre qui est en train d'être transporté pour être amené à Jérusalem ne tombe pas du chariot sur lequel il est. Pourquoi David a-t-il soudain si peur de Dieu? Pourquoi Michal, la femme de David, conçoit-elle du mépris à son égard? Pour rappel, les Philistins sont un peuple avec lequel Israël a toujours eu des démêlés. 30 ans avant notre récit, ils avaient capturé l'Arche de l'Alliance. Ils l'avaient placée dans leur temple, le temple du dieu Dagon. Et ils voulaient en quelque sorte soumettre le dieu d'Israël au dieu Dagon en le mettant dans le temple et montrer que Dagon avait la supériorité. Mais Dieu n'a pas entendu les choses ainsi. Il ne s'est pas laissé faire. Il est arrivé plein d'ennuis avec cette statue de Dagon qui est tombée toute seule pendant la nuit à plusieurs reprises. Finalement, les Philistins se sont résolus à rendre l'arche aux Israélites. Et puis depuis lors, cette arche, ce coffre de l'Alliance, a été laissé dans un obscur petit village juif. Et on peut s'étonner de cette situation qui était complètement paradoxale. Si l'arche avait tant d'importance, Pourquoi l'a-t-on laissé dans un obscur village ? David, quand il accède au trône et qu'il prend Jérusalem comme capitale, décide d'amener ce coffre à Jérusalem. Jérusalem ainsi ne sera pas seulement le centre politique du pays, mais deviendra aussi le lieu où Dieu doit être adoré. Il ne suffisait pas que le trône du roi soit établi à Jérusalem pour David, il fallait aussi qu'on puisse célébrer la souveraineté de Dieu à Jérusalem. Qu'est-ce que ce coffre de l'Alliance, ou cette arche de l'Alliance? C'était un coffre qui faisait à peu près 130 cm de long, 75 cm de large, à peu près autant de profondeur. Il était recouvert d'or partout. Et dans le coffre se trouvaient trois éléments. Il y avait d'une part les deux tables de la loi que Moïse avait laissées, sur lesquelles étaient inscrites les commandements du Seigneur. Et ces tables rappelaient l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Il y avait aussi un bocal avec un peu de manne que les Israélites avaient gardé du temps du désert, quand Dieu les avait nourris. Et cette manne rappelait combien Dieu prend soin de son peuple et veut nourrir son peuple. Et puis il y avait un troisième élément qui était le bâton d'Aaron. Ce bâton qui avait refleuri. Ce bâton qui avait permis au peuple d'être conduit. Le bâton du berger qui conduit le peuple. Mais ce bâton aussi qui avait ouvert la mer, qui avait empêché la mort de triompher. Et ce bâton refleurissant symbolisait la vie de la résurrection. Et montrer que Dieu amène la vie et la vie de la résurrection. Donc ce coffre contenait trois éléments qui rappelaient qui était Dieu et ce qu'il avait fait pour son peuple. Ce coffre était fermé par un couvercle qu'on appelait le propitiatoire. Un couvercle également tout plaqué d'or. Et ce propitiatoire, ce couvercle servait au grand sacrificateur, une fois par an, d'entrer dans le lieu très saint où se trouvait le coffre pour y déverser le sang des sacrifices afin d'accomplir la purification pour le peuple. C'était le jour du grand pardon où Dieu accordait le pardon à son peuple, où Dieu devenait propice à son peuple. Sur le propitiatoire se trouvaient deux anges à chaque bout du couvercle, des anges qui par leurs ailes se touchaient et créaient un espace entre le couvercle et les ailes de l'ange, et dans cet espace se trouvait la gloire de Dieu. Dieu siégeait là au milieu de ces anges et sur le couvercle, sur ce coffre qui lui servait de trône. Donc cette arche était très importante parce qu'elle rappelait l'histoire de Dieu, ce qu'il avait fait pour son peuple, comment il avait aidé son peuple à sortir d'Égypte, comment il l'avait libéré de l'oppression et comment il avait sauvé son peuple. Ce coffre donnait en quelque sorte une base historique à la foi d'Israël. C'est important que notre foi soit enracinée historiquement. Ce n'est pas juste un concept abstrait. Dieu n'est pas une invention. Dieu n'est pas non plus un Dieu à la longue barbe. Il est un Dieu qui a agi au sein d'un peuple, dans un temps donné. Et ce coffre permettait de se souvenir que Dieu était présent, qu'il avait une réalité historique, qu'il s'était mêlé aux affaires des hommes et des femmes, qu'il avait secouru, jugé, accompagné, demandé des comptes, sauvé, béni. Oui, Dieu avait une réalité historique. Il fallait en garder la trace, et ce coffre en gardait la trace. Avoir ce coffre avec soi, c'était se souvenir de qui Dieu était, de tout ce qu'il avait fait dans le passé, de ce qu'il est encore capable de faire dans le présent, et de ce qu'il allait encore continuer de faire dans l'avenir. Ce que Dieu a été au moment de la traversée de la mer Rouge, il le serait encore pour son peuple plus tard. quand on a un tel coffre avec soi, on pourrait être tenté, à un moment donné, de considérer que ce coffre amène la puissance de Dieu. On pourrait être tenté de considérer que ce coffre, qui symbolise la présence de Dieu, amène en même temps Dieu avec nous. Avoir ce coffre, c'est avoir Dieu avec nous. On peut être tenté par un côté magique quand on a un tel coffre. Et pourtant, ce coffre n'avait pas de propriété magique. Il n'était qu'un coffre. Il n'était pas en soi un porte-bonheur. Et chaque Israélite le savait en soi. Et pourtant, ces idées ont commencé parfois à apparaître. Et il a fallu que les prophètes interviennent et combattent cette tendance naturelle de l'homme à la magie. Parce que le vrai culte ne consiste pas à s'approprier des éléments magiques qui interviendraient par eux-mêmes et pour eux-mêmes, mais le vrai culte consiste à s'approcher de Dieu par l'Esprit et en vérité. Le vrai culte consiste à laisser Dieu façonner le matériau de notre vie et à faire de nous des pierres vivantes. Le vrai culte ne consiste pas à avoir des objets, mais consiste à laisser Dieu nous rencontrer. Et le risque que couraient les Israélites, je crois que nous le courons toujours encore, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il veut toujours s'approprier des objets. Et même ici, à l'église du tabernacle, nous courons toujours le risque de vouloir nous approprier un lieu ou un objet pour en faire le signe de la bénédiction de Dieu au milieu de nous. Imaginez que nous enlevions la croix qui est derrière moi. Imaginons que nous enlevions ces magnifiques lacs de Bernard Dunant sur lesquels sont affichés nos cantiques. Imaginons que nous changions l'architecture de ce lieu. Qu'est-ce que cela nous ferait ? Est-ce que Dieu serait encore avec nous ? Mais bien sûr. Est-ce que nous pourrions encore adorer Dieu ? Mais bien sûr. Les lieux ne sont pas une sorte d'objet magique qui nous permette d'adorer Dieu. Ça ne signifie pas que l'architecture soit sans importance, mais trop souvent, les objets, les bâtiments prennent la place de Dieu. Et du coup, la tendance de chaque chrétien, de chaque église, peut-être de privilégier parfois la forme, la pierre, la croix, l'esthétique, au détriment du fond, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu. Pour les Israélites, ce coffre leur faisait courir le même risque. Le fait de le posséder, de l'amener à Jérusalem, n'allait pas automatiquement leur apporter la bénédiction. Chacun le savait, comme chacun d'entre nous sait que notre adoration ne dépend pas de ce bâtiment. Et pourtant, le risque existait. Le verset 2 parle de ce coffre en disant qu'il s'agit du coffre de Dieu. Ce qui dit bien que Dieu est plus grand que ce coffre. Il n'est pas dans le coffre. Le verset 2 dit aussi que ce coffre est le coffre sur lequel est invoqué son nom. Ce qui montre bien qu'il ne peut pas y avoir de confusion entre le coffre et Dieu. C'est le coffre sur lequel est invoqué le nom de Dieu. Mais quel est ce nom ? Comment Dieu se révèle-t-il ? Il se révèle par quel nom ici ? Il dit qu'il est le Seigneur Yahweh des armées. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la guerre. Le Dieu qui se révèle ici, c'est le Dieu des armées célestes. Le Dieu que l'on invoque, c'est le Dieu qui gouverne le monde. Celui qui, depuis le ciel, avec son armée céleste, gouverne et dirige l'histoire de ce monde. C'est le Tout-Puissant. Et donc Dieu ne peut pas être contenu dans un coffre ou dans quoi que ce soit. On ne peut pas l'enfermer. Et si le Seigneur siège symboliquement dans l'espace qui est créé par les ailes de ces deux anges qui se tiennent sur le coffre, En fait, toujours notre verset 2 dit littéralement que le Seigneur est assis sur les kéroubim, sur les chérubins, sur ces êtres célestes. En quelque sorte, ce coffre lui sert de marchepied, de marchepied pour un trône qui est bien plus élevé que ce coffre, que ce que ce coffre peut contenir. C'est pour ça qu'Ésaïe, bien plus tard, va dire que le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Et parce qu'il est assis sur ce trône très élevé, nous lui devons toute notre reconnaissance, toute notre adoration. Donc, assez dit sur ce coffre. Voyons un peu ce que c'est maintenant. Eh bien, ce coffre a été relégué dans la maison d'un vieux sacrificateur, Rabbi Nadab, aux confins d'un petit village. Et au début de notre récit, il semble que ce coffre soit menacé. Menacé parce qu'Israël vient de remporter deux guerres contre les Philistins. Et les Philistins ont certainement envie de prendre leur revanche. Comment pourraient-ils prendre leur revanche? Peut-être en s'attaquant à ce coffre, en le reprenant à nouveau. David veut protéger cet objet, non pas parce que ce sera un objet magique, encore une fois, mais parce qu'il est le symbole de la présence de Dieu. Alors il fait participer toute l'élite politique, spirituelle, militaire. Il mobilise 30 000 hommes, c'est une force impressionnante, pour aller prendre ce coffre dans le village de Kiryat Yarim pour l'amener à Jérusalem. Il veut que sa cité, la cité de David, devienne le lieu où l'on adore le Dieu unique. Un Dieu qui se fera connaître de tous. Jérusalem est appelée à devenir le centre de l'univers puisque c'est le lieu où Dieu se révèle. Jérusalem deviendra le siège du trône du Seigneur des armées célestes. Quelque part, Jérusalem devient le lieu de connexion entre le ciel et la terre. Le projet de David est bon en soi. Son idée de ramener ce coffre à Jérusalem pour faire Jérusalem la cité de Dieu n'est pas mauvaise. Mais les problèmes commencent à surgir à partir de là. Parce que certains tentent de domestiquer Dieu et de n'en faire qu'à leur guise. Le transport est organisé. L'arche ou le coffre est mis et placé sur un chariot tout neuf. Et Abinadab, qui avait ce coffre chez lui, demande à ses deux fils, Uzza et Ahio, de veiller à ce que tout se déroule bien durant le transport. Le convoi est tiré par des bœufs, qu'on voit s'ébranle, Ayo marche devant. Il y a une grande foule, les 30 000 personnes qui sont là et qui célèbrent Dieu en voyant ce coffre se déplacer désormais en direction de la ville de David. Il y a des musiciens qui jouent de tout leur cœur, avec des instruments à cordes, avec des percussions. Et tout à coup, le chemin est glissant, les bœufs semblent glisser. Le chariot dérape et le coffre tangue et va tomber. Uzza instinctivement se précipite, cherche à retenir le coffre avec sa main pour qu'il reste bien sur le chariot. Il le saisit et dès qu'il touche le coffre, le Seigneur le frappe à terre, il meurt, il gît à côté du coffre. Le texte nous dit que Dieu le frappe sur place. Et cela nous semble assez incompréhensible. Pourquoi cet homme, qui a voulu éviter la catastrophe, est-il puni par Dieu? Qu'a-t-il fait de mal? Pourquoi Dieu le punit-il de manière aussi directe, alors que ce que nous connaissons de Dieu, c'est un Dieu patient, un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté? Comment Dieu peut-il provoquer un châtiment aussi foudroyant? En y réfléchissant, peut-être vous vient-il à l'esprit d'autres histoires des Écritures. L'histoire dans le Nouveau Testament d'Ananias et de Saphira. Un couple de gens très pieux qui choisissent de donner une belle somme d'argent pour le temple et qui pourtant sont frappés instantanément du jugement de Dieu et qui décèdent l'un et l'autre sur place. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit aux apôtres qu'ils donnaient tout le produit de la vente de leurs champs, alors qu'en fait, ils en ont gardé un peu au cas où ils en auraient quand même besoin pour eux. Une autre histoire peut-être vous vient à l'esprit, celle de Caïn et d'Abel. Tous les deux étaient bien intentionnés en apparence, chacun a voulu offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu a agréé le sacrifice de l'un, Abel, et il a refusé le sacrifice de l'autre, Caïn. Pourquoi ? L'Épître aux Hébreux nous donne la piste. Parce que le cœur de Caïn n'était pas selon le cœur de Dieu, parce que sa motivation n'était pas saine. Dieu voit au-delà des apparences. Il voit ce qui se cache dans le cœur. Et ces trois histoires nous montrent qu'on ne peut pas agir avec négligence et avec désinvolture à l'égard de Dieu. Ces histoires sonnent comme des formes d'avertissement. On ne joue pas avec Dieu. On ne ment pas à Dieu. Mais alors pourquoi Uzza est-il frappé ? Pourquoi est-il puni ? Le texte ne le dit pas directement. Il dit simplement que le geste d'Uzza est un geste irrévérencieux, insolent, irréfléchi. Mais il laisse un vide. Un vide que l'auteur nous invite à combler. Alors on n'est pas invité à combler ce vide n'importe comment, en y plaçant nos propres idées, en y faisant dire au texte ce qu'il ne dit pas. Mais si on tient compte du contexte biblique, on se rend compte et l'on sait qu'Uzza n'a pas obéi à la loi de Dieu. Dieu avait précisé, bien avant du temps de Moïse, que lorsque l'on allait transporter le coffre de l'Alliance, il fallait toujours que l'on prenne les barres qui étaient prévues pour le transport et que ça soit fait à dos d'homme. Il ne fallait jamais toucher ce coffre. Uzza, qui est un lévite, connaissait-il la loi ? A-t-il désobéi sciemment ou inconsciemment ? Il agit en tout cas par un geste instinctif. Il veut protéger ce coffre qui semble tomber. Mais quand il protège ce coffre, il protège en fait un bien matériel. Il ne s'est pas soucié de savoir ce que Dieu voulait et de ce que Dieu avait commandé. Et de cette manière, il outrepasse la loi divine. Il agit à sa manière, selon ce qui lui semble bon. Vous savez, à force de servir Dieu, peut-être Uzza s'est dit, au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, qu'il savait très bien ce que Dieu voulait, qu'il n'avait peut-être même plus besoin de lire régulièrement la loi et les Écritures pour connaître la volonté de Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait les gestes liturgiques, il savait ce qui était le meilleur pour Dieu. Mais quand on pense savoir, on se met souvent à la place de Dieu. Pour le transport de cette arche, Uzza choisit la dernière technologie, un chariot tout neuf. Et d'un point de vue humain, le chariot était sans doute bien plus efficace, bien plus rapide pour transporter le coffre que s'il avait fallu le transporter à dos d'homme. Mais cela, c'est le point de vue humain. Ce n'est pas le point de vue de Dieu. Parce qu'en la circonstance, la machine a remplacé l'homme. La technologie est venue prendre la place que Dieu voulait donner à l'homme. Uzza a voulu faire bien, mais en voulant faire bien, il a oublié Dieu. Et on peut être serviteur de Dieu, engagé dans l'Église, et commencer à agir par soi-même, en faisant les choses à la place de Dieu. Dieu avait-il besoin qu'on le protège en la circonstance? S'il avait donné une loi qui interdisait de toucher ce coffre, Uzza n'avait pas besoin de le toucher. Il n'avait pas besoin de prendre la défense de Dieu. Dieu allait se défendre par lui-même. Parce qu'il se sentit responsable de tout, Uzza a pris la place de Dieu. Et il a fini par enfermer Dieu dans ce coffre. Et sa mort brutale sonne pour nous comme un avertissement. Attention, attention. On ne fait pas n'importe quoi. Dieu n'est pas un objet entre nos mains. Il n'est pas à notre merci. Ce sont les religieux qui tentent de prendre Dieu et de se l'approprier. Et aux religieux de son temps, qui savaient toujours mieux que les autres comment il fallait faire et ce qu'il fallait faire, Jésus leur dira ces paroles extrêmement dures un jour. Il leur dira « Hypocrites, sépulcres blanchis, vous êtes tout beau au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres et pourriture. » Puis Jésus continue et il dit « Vous de même, à l'extérieur vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. » Attention donc, attention. Il est dangereux de laisser penser que nous aimons Dieu, d'agir de manière pieuse au sein de l'Église, en vivant une sorte de double vie hypocrite. Uzza était un religieux, mais la religiosité ne suffit pas. La religiosité n'est qu'une forme de vernis qui cache la misère du cœur humain. Et si nous vivons comme Uzza, tôt ou tard, nous mourrons aussi d'une mort spirituelle, d'une mort où Dieu est tenu à l'écart, où il n'y a plus de communion, plus d'adoration, plus de foi, plus de louange, une vie spirituelle qui est morte. Voilà où conduit la religiosité, à une vie qui est sainte en apparence, mais où la vie de Dieu est absente. Dieu ne veut pas des religieux. Dieu veut des gens simples, avec un cœur simple, un cœur pur, des gens sincères, obéissants. Il a trouvé ses qualités dans la personne de David. David est vrai avec Dieu. Il est authentique dans sa manière de vivre la foi. Quand on lit ce texte, on voit bien que David ne cherche pas à préserver les bonnes manières. Il ne cherche pas à vivre avec des faux semblants. Son attitude d'ailleurs est étonnante. Quand Uzza meurt, David se fâche. Il se fâche parce que ses plans sont contrecarrés. Le beau cortège qui montait à Jérusalem avec 30 000 hommes est stoppé là, tout net. Son plan est mis en échec. Il se fâche peut-être contre Dieu. Il se fâche plus probablement contre Uzza. Uzza, qui à cause de son comportement irrévérencieux, a amené Dieu à porter un coup fatal et à stopper ce cortège. C'est intéressant de noter que le terme Uzza est très proche d'un autre terme hébreu qui veut dire puissance. Et cette puissance d'Uzza a été abattue par Dieu, qui a ainsi ouvert une brèche pour se frayer une voie. Et c'est pour cela qu'on appelle le lieu où cela s'est passé la brèche. David n'a jamais songé à enfermer Dieu dans une boîte. Il n'a jamais voulu domestiquer Dieu. Quand il était dans le désert, poursuivi par Saül, il a appris ce que voulait dire prier. Il a appris ce que voulait dire aimer. Il a appris à vivre une foi authentique. Il était direct. Il a écrit beaucoup de psaumes qui montrent combien David peut être transparent à l'égard de Dieu et dire ce qui l'agite intérieurement. Et c'est pourquoi, quand le cortège s'ébranle pour transporter l'arche au son de la musique, il nous est rapporté au verset 5 que David et toute la communauté d'Israël exprimaient leur joie devant l'Éternel. Et le terme « exprimer la joie » est un terme très fort. C'est un terme qui dit que cette expression de la joie se fait sans retenue, de manière quasiment irrépressible. C'est un terme qui implique de fortes réjouissances. On est donc très loin d'un culte formaliste où tout doit se dérouler dans la dignité, la gravité, le visage sombre, le visage tendu devant la majesté divine. On est très loin d'un culte où l'on n'oserait jamais sourire. Ici, il y a une explosion de joie. Une explosion de joie qui traduit la ferveur du peuple et la ferveur de son roi. Mais Uzza, qui décède brusquement, met un terme à cette joie, met un terme à la fête. Et ce jour-là, David prend peur de l'Éternel. Il se dit, mais jamais je ne pourrai faire venir ce coffre jusqu'à Jérusalem. Quel est le risque que je prendrai? Alors il le fait déposer dans la maison d'Obed, un lévite. Et puis cet Obed, qu'on ne connaît pas par ailleurs, eh bien au bout de 3 mois de la présence de ce coffre chez lui, voit sa situation prospérer. Dieu le bénit. Le coffre est-il magique? Non. Simplement, Dieu choisit de bénir cet homme qui accueille le coffre chez lui. Et David apprend qu'Obed a été béni. Il se dit, mais si Obed a été béni, pourquoi ne le serais-je pas? Donc je vais quand même reprendre la route, reprendre ce coffre de chez Obed et l'amener à Jérusalem. Cette fois, il va prendre des précautions. Il prépare une tente où l'on pourra accueillir le coffre à Jérusalem. Il revêt des vêtements de lin, qui sont les vêtements que portaient les Lévites, ce qui implique qu'il se défait de ses vêtements royaux et qu'il revêt une simple robe sacerdotale. Et ce faisant, il se présente comme un prêtre et non plus comme un roi. On ne peut pas s'auto-proclamer prêtre. Mais David est en quelque sorte le successeur d'une lignée de prêtres qui commence déjà du temps d'Abraham. Peut-être vous en souvenez-vous-en. Il y avait un prêtre à cette époque-là qui s'appelait Melchisédek, qui avait été prêtre de Salem. Salem qui est devenu Jérusalem. David, revêtant ses habits de lin, se présentant comme un prêtre devant son peuple et non plus comme un roi, se présente comme l'héritier de Melchisédek. L'arrivée de ce coffre à Jérusalem ne sera donc pas un geste politique, mais sera bien un geste cultuel. On est dans une théocratie, mais David ne cherche pas à utiliser la religion à des fins politiques. Il se présente devant son peuple comme un homme de foi, comme un berger spirituel. Il ne cherche pas à s'approprier la puissance de Dieu. Au moment où le cortège s'ébranle cette fois, pour la deuxième fois, cette fois porté par des Lévites, on a appris la leçon entre deux, eh bien, David prend encore le temps de faire des sacrifices de communion. Et puis il se met à danser, nous dit le texte. À danser de toutes ses forces devant l'Éternel, à danser une danse tournoyante, peut-être une danse rituelle qu'il avait connue. Il exprime son enthousiasme sans aucune gêne, sans aucune restriction, comme lors de la première montée à Jérusalem. Mais cette fois, avec ses vêtements de prêtre, il marque bien sa volonté de servir le Seigneur. David danse. Et Peterson, qui commente cet événement, dit ceci, « Si David n'avait fait qu'accomplir son devoir religieux ou présider une cérémonie politique, qu'aurait-il fait? Il aurait marché dignement à la tête d'une procession solennelle pour mener l'arche jusqu'à Jérusalem. Mais ce jour-là, David n'accomplit pas une obligation d'État. Il ne se sert pas de Dieu pour conférer de la dignité à Jérusalem. Il ne prend pas des mesures pour que Dieu soit célébré dans les règles de l'art. ce jour-là, dans cet instant précis, David adore Dieu. Il se réjouit du Dieu vivant. Il est inondé de la vie de Dieu. La vie de Dieu déborde en lui et autour de lui. Il bénit ce Dieu par qui est entré le salut dans le monde. Il bénit ce Dieu qui a fait alliance avec le peuple, qui s'est révélé et qui a béni. Et cela nous apprend, pour nous, que quand nous voulons être ouverts à Dieu et l'adorer, nous devons non pas être dans du formalisme, non pas être à chercher à préserver les règles, mais nous devons simplement laisser la vie de Dieu entrer en nous, accueillir la parole de Dieu, être prêt à réagir à la parole de Dieu et à répondre à ce que Dieu demande. C'est seulement comme cela que nous pourrons rendre un culte à Dieu. Quand nous cesserons de nous préoccuper de nous-mêmes et de nous préoccuper de ce que les gens pensent, pour nous préoccuper de Dieu. On adore Dieu seulement dès le moment où nous laissons Dieu nous transformer. Nous adorons Dieu seulement quand nous sommes entièrement concentrés sur Dieu. Et pour cela, nous devons choisir de prendre du temps avec Dieu, si possible chaque jour, pour préserver ces moments-là. Sinon, Dieu deviendra au plus une image, quelqu'un qui n'a pu nous aider dans le passé, mais nous deviendrons religieux et nous perdrons le vrai sens de l'adoration. Quand l'arche monte, et je vais terminer par là, le temps passe, quand l'arche monte à Jérusalem, tout le monde se réjouit. Tout le monde, sauf une personne. Il y a une personne qui regarde tout ce qui se passe, qui est en marge, et qui voit les choses de haut et de loin. Cette personne, c'est Michal, la fille de Saül, qui est devenue la femme de David. Vous vous souvenez encore ce qui avait permis qu'elle devienne la femme de David? Le beau-père de David, le père de Michal, avait demandé à David qu'il ramène 100 prépuces de Philistins. Il en avait ramené 200. Michal avait admiré cet homme noble, courageux, fort. Elle avait admiré la bravoure de ce David, son courage, sa témérité. Plus tard, elle admire David dans ses vêtements royaux. David à la tête du royaume. Et là, elle voit son mari danser, sauter, se trémousser devant l'arche. Tout heureux de ce que Dieu a sauvé le peuple, qu'il l'a conduit, qu'il l'a béni. Et ce jour-là, elle choisit de mépriser son mari. Elle le méprise pour son comportement, parce que, comme les autres rois, elle s'attendait à ce que son mari se conduise dignement, comme un roi, comme tous les autres rois. Il aurait dû vivre en grande pompe. Pour Michal, Dieu n'était qu'un aspect de la vie sociale et de la vie politique. Elle est gênée par l'attitude de son mari, et elle se fait sourde à l'appel de Dieu. Ce jour-là, elle est certainement bien droite dans ses bottes, bien vêtue. Elle est digne, elle est correcte. Elle paraît bien. Mais elle se moque de son mari qui danse en tête du cortège. Lui qui était spontané, libre, audacieux. Lui qui était indifférent au « qu'en dira-t-on ?» En fait, ce que ce texte nous apprend, c'est que David était bien vivant pour Dieu et elle était morte. Héritière de la lignée de Saül, elle n'a pas su s'en démarquer. Elle est restée attachée aux formes, restée attachée à l'apparence, plutôt que de vivre joyeusement pour Dieu. Alors je conclue en vous demandant ce matin, qui est Dieu pour moi ? Comment est-ce que je vis ma foi ? Et j'aimerais prier avec vous. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous du mal. que ton nom soit sanctifié et honoré dans nos vies. Aide-nous à vivre en vérité devant toi et pour les autres, pour la gloire de ton nom.